Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination pour pouvoir être capable d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés pour vacciner massivement les Français.
Olivier Véran n'en voulait pas et pourtant nous aurons bien des vaccinodromes. 35 centres géants vont être déployés pour répondre à l'augmentation des livraisons. 17 millions de doses attendues en mai, 10 de plus en juin. Objectif du ministre de la Santé, que tous ces vaccins soient administrés dès leur arrivée en France. Les usines britanniques d'AstraZeneca ne livrent rien à l'Europe. Colère de Bruxelles qui menace de bloquer les exportations de vaccins fabriqués sur le sol européen vers la Grande-Bretagne si le laboratoire ne respecte pas ses engagements. 26 000 malades du Covid sont ce soir hospitalisés, dont Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a été placée sous surveillance médicale. Mais son état de santé est en voie d'amélioration. Autre membre du gouvernement infecté, Roselyne Bachelot, elle est à l'isolement. Dans ce journal également, la crainte d'un cluster géant à Marseille après le carnaval sauvage qui a rassemblé 6 500 personnes, la plupart non masquées. Le procès du saccage de l'Arc de Triomphe en marge de l'acte 3 des Gilets jaunes, 10 prévenus mais pas les principaux responsables. Et puis Canal+, accusé d'avoir supprimé des passages d'un documentaire sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans le journalisme sportif. Les extrêmes étant en cause, le chroniqueur vedette Pierre Ménès ont été supprimés au montage. La météo, elle sera grise demain matin avec de nombreux brouillards, mais le soleil fera son retour l'après-midi avec de belles éclaircies au programme. En revanche, les températures resteront fraîches pour la saison, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,49% à 5968. Points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com. L'interview Echo dans 20 minutes. Autour de cette question, les entreprises respectent-elles les demandes de télétravail? Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Jean-Hugues Duménil, le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est ce qui s'appelle un changement de braquet. Alors que depuis le début de la campagne de vaccination, l'exécutif ne voulait pas en entendre parler, les vaccinodromes vont donc finalement voir le jour. Au moins 35 centres géants vont être ouverts dans les prochaines semaines, a annoncé Olivier Véran. Leur déploiement sera assuré par l'armée et les pompiers. Un changement de stratégie dicté par l'augmentation attendue des livraisons de vaccins.
Aujourd'hui, notre planning, vous le connaissez, c'est 10 millions de primo-vaccination à la mi-avril. Si on n'a pas de pépins du côté des laboratoires, on a toutes les chances de pouvoir tenir cet objectif. Et on ira encore plus loin et encore plus vite quand les livraisons augmenteront dans les semaines qui suivront. Et donc, le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination. Vous pouvez les appeler vaccinodromes ou méga-centres, quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'État, l'assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi pour pouvoir être capable justement d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français.
Le ministre de la Santé qui s'exprimait en marge d'un déplacement ce matin dans l'Essonne. L'objectif est donc très clair, que tous les vaccins reçus soient administrés immédiatement. Fini les doses qui dorment dans les frigos, ce qui agace au plus haut point Emmanuel Macron. Il faut aller plus vite car les livraisons au compte-gouttes de ces derniers mois, ça sera bientôt du passé, Anne Le Gall.
Exactement, car nous allons avoir une montée en puissance des livraisons de Pfizer et Johnson & Johnson. La France devrait ainsi recevoir 17 millions de doses de vaccins en mai et 27 millions en juin. C'est plus du triple des livraisons de ce mois-ci. Concrètement, pour vacciner déjà dans un premier temps 10 millions de Français d'ici le 15 avril, c'est l'objectif fixé par le gouvernement, il faudra que les vaccinateurs soient en mesure d'injecter 210 000 doses par jour dans les mois qui viennent. C'est faisable, car rien que vendredi, au moment de la reprise de la campagne avec AstraZeneca, 250 000 doses ont été injectées par les généralistes et dans les centres. Puis en mai et juin, la cadence va encore s'accélérer. À partir de mai, nous aurons normalement les doses pour vacciner 330 000 Français par jour. Beaucoup de ces vaccinations auront toujours lieu dans des centres, car les vaccins Moderna et surtout Pfizer représenteront alors près de 60% des doses reçues. Or, ce sont ces vaccins qui se conservent à moins 20 et moins 70 degrés.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, mais quid d'AstraZeneca? AstraZeneca. Je vous en parle régulièrement dans ce journal. Les livraisons ne sont pas du tout au rendez-vous. Seulement 30 millions de doses d'AstraZeneca ont été livrées à l'Europe au premier trimestre, soit 4 fois moins que ce qui avait été promis. Insupportable pour la présidente de la Commission européenne qui s'est lancée dans un bras de fer avec Londres et AstraZeneca. Ursula von der Leyen menace de bloquer les exportations de vaccins fabriqués sur le sol européen vers la Grande-Bretagne si le laboratoire britannique n'honore pas ses promesses de livraison, Isabelle Horry.
Oui, Bruxelles étudie toutes les options pour faire respecter son contrat avec AstraZeneca. L'objectif, c'est que les 27 chefs d'État européens tranchent lors de leur sommet virtuel ce jeudi. Le Britannique Boris Johnson passe déjà des coups de fil pour les convaincre de ne rien faire. Il a eu Emmanuel Macron hier. Mais côté français, on soutient la démarche de la Commission. La ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, l'a dit sur notre antenne ce midi.
Bien sûr, je soutiens la proposition d'Ursula von der Leyen. Nous avons signé un contrat dans les mêmes termes que le Royaume-Uni et nous entendons que ce contrat soit honoré avec AstraZeneca. AstraZeneca aura livré à la fin du mois de mars 25% des doses qui étaient prévues dans son contrat. Cela ne peut se justifier par des difficultés industrielles.
En fait, plus personne ne croit les explications du laboratoire. Les diplomates sont convaincus qu'AstraZeneca a vendu deux fois les mêmes capacités de production, une fois à Londres, une fois aux Européens. Dernier exemple en date, son usine aux Pays-Bas. Les Européens croyaient que ces livraisons, qui doivent bientôt commencer, leur seraient réservées. Et puis, ils ont découvert que les Britanniques comptaient aussi dessus. De quoi aggraver encore les tensions entre la compagnie, Londres et Bruxelles.
Les précisions d'Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'Union européenne qui n'agace pas que le Royaume-Uni. Vladimir Poutine a dénoncé aujourd'hui les étranges déclarations du commissaire européen au marché intérieur. Thierry Breton qui a estimé hier que l'Europe n'avait pas besoin du vaccin russe Sputnik V. Nous nous interrogeons sur les intérêts que défendent ces gens, ceux des entreprises pharmaceutiques ou ceux des citoyens européens, s'est interrogé le président russe. Poutine annonce par ailleurs qu'il se fera vacciner demain. En Allemagne, la troisième vague contraint Angela Merkel à revenir sur les récents assouplissements. La chancelière est actuellement en réunion avec les dirigeants des 16 Länder pour évoquer la stratégie anti-Covid et notamment la mise en place d'un couvre-feu national, ce qui serait une première outre-Rhin. Retour en France où le gouvernement n'est pas épargné par le Covid, au sens propre comme au sens figuré. Deux ministres sont actuellement infectés. Il y a Roselyne Bachelot à l'isolement depuis samedi après un test positif. Et puis surtout Elisabeth Borne dont on a appris à la mi-journée qu'elle était hospitalisée en région parisienne. Mais l'entourage de la ministre du Travail se veut rassurant, Hélène Terzian.
Effectivement, d'après son entourage, la ministre de 59 ans va mieux. Elle est en réalité à l'hôpital depuis la fin de semaine dernière, un hôpital de région parisienne. Mais les médecins sont plutôt rassurants. Son ministère indique que la continuité des dossiers est assurée. Elisabeth Borne hospitalisée donc. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas le premier membre du gouvernement à être hospitalisé après avoir contracté le virus. En septembre dernier, Bruno Le Maire a lui aussi été placé sous surveillance dans un hôpital militaire. Le ministre de l'économie avait d'ailleurs confié par la suite, on s'en rappelle à quel point le virus, je cite, avait été violent. À ce jour, ce sont en tout cas 7 personnalités de l'exécutif qui ont été infectées. Roselyne Bachelot, vous l'avez dit, a été déclarée positive samedi. Il y a un an, c'est son prédécesseur, Franck Riester, aujourd'hui ministre chargé du commerce extérieur, qui était contaminé, tout comme l'ex-secrétaire d'État Brune Poirson, puis la ministre Emmanuelle Wargon. Un virus qui n'a pas épargné le chef de l'État. Emmanuel Macron, positif au Covid, donnait de ses nouvelles en se filmant avec son smartphone depuis la résidence de la Lanterne.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Et puis on a appris par ailleurs que Najat Vallaud-Belkacem a elle aussi été testée positive au Covid. Aujourd'hui, la candidate à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes a immédiatement suspendu sa campagne.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Condamnation unanime après le carnaval sauvage hier à Marseille. 6500 personnes collées serrées et sans masque pour la plupart. L'événement n'avait pas été autorisé par la préfecture. Tout à l'heure, Gérald Darmanin a expliqué que les forces de l'ordre ne sont pas intervenues d'emblée car il y avait de nombreuses familles avec enfants. Certains ont mis en danger la vie d'autrui. Nous devons répondre par la fermeté, assure le ministre de l'Intérieur. 9 personnes ont été interpellées et certaines passeront dès demain en comparution immédiate car en marge de ce carnaval, il y a eu des incidents, des dégradations. La ville de Marseille annonce d'ailleurs qu'elle va porter plainte, Stéphane Frangy.
Oui, c'est ce que nous a annoncé tout à l'heure l'adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian. Mais ce qui le met le plus en colère, c'est finalement ce sentiment de gâchis sanitaire.
Ce qui s'est passé hier est évidemment inexcusable. Je ne souhaite pas que Marseille soit montré du doigt par l'irresponsabilité de quelques-uns à l'issue de cette manifestation, alors que nous sommes en première ligne pour lutter contre l'épidémie. J'espère, on n'apprendra pas dans quelques temps qu'il y a eu là un cluster géant. Je l'espère vraiment.
Oui, mais voilà, du carnaval au cluster, c'est justement ce qu'il faut craindre, selon le docteur Laurent Zilskevitch. Il est réanimateur à l'hôpital Nord de Marseille.
Qu'ils sont potentiellement sujets contact, qu'ils réduisent leurs interactions sociales et que dans quelques jours, ils aillent éventuellement se faire tester et peut-être ne pas recommencer. Et ça peut faire un cluster et puis après, les gens peuvent aussi disséminer, aller voir leur famille et ça peut potentiellement participer à l'augmentation de l'incidence. Il peut potentiellement y avoir, oui, un rebond dans quelques semaines.
Et d'autant que la tension hospitalière et selon lui au plus fort depuis le mois de novembre, les réanimations des hôpitaux des Bouches-du-Rhône sont actuellement en surcapacité.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille, où ont été condamnés ce soir 4 supporters de l'OM pour les violents incidents survenus fin janvier au centre d'entraînement du club. Les images étaient impressionnantes. Figurent notamment 2 leaders de groupe ultra. Ils ont écopé de 9 mois de prison, dont 5 avec sursis. Ces images-là avaient, elles aussi, fait le tour du monde et choqué de nombreux Français. Le saccage de l'Arc de Triomphe, il y a 2 ans, lors du 3e acte des Gilets jaunes. Le monument avait été tagué, mobilier détruit ou volé, statues et œuvres d'art endommagées. Eh bien, c'est l'heure de rendre des comptes. 10 personnes sont depuis cet après-midi jugées à Paris. Mais le problème, Justin Morin, c'est que ces prévenus ne sont pas les principaux responsables des dégradations.
Oui, et cette première journée d'audience nous l'a confirmé. L'exemple le plus marquant du décalage entre la violence des images et les débats, c'est celui de ce prévenu breton, 25 ans, au moment de son interpellation à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Les policiers retrouvent sur lui 4 cartes postales issues de la boutique de souvenirs. C'est pour cela qu'il est poursuivi pour vol. Au juge, il a expliqué qu'il était entré pour se protéger des gaz lacrymogènes, que tout avait déjà été saccagé à l'intérieur. La présidente a beau lui dire qu'il n'aurait pas dû se retrouver là. Elle reconnaît que 4 cartes postales, ce n'est pas l'affaire du siècle. À écouter ceux qui ont répondu aux questions de la présidente, pas vraiment de revendications politiques. L'un d'eux, le plus jeune, 18 ans au moment des faits, a même dit ne pas soutenir les gilets jaunes. Il était là par curiosité, puis il dit avoir été emporté par l'hystérie collective. Il a été filmé en train de frapper une porte avec un extincteur. On est bien loin des scènes de désolation diffusées en introduction. La boutique souvenir, le musée, jusqu'aux toilettes des employés, tout a été saccagé et pillé. 1 million d'euros de dégâts. Mais les juges d'instruction l'ont avoué eux-mêmes à la fin de leur enquête. Les instigateurs, voire les principaux auteurs des faits, n'ont pas été renvoyés devant le tribunal. Ils n'ont jamais été identifiés.
Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1. Autre procès qui a débuté aujourd'hui, celui visant IKEA France, accusé d'avoir mis en place un vaste système d'espionnage de ses salariés, affaire qui avait été révélée en 2012. Le géant suédois de l'ameublement est jugé aux côtés de 15 personnes physiques, dont d'anciens cadres de l'entreprise, des directeurs de magasins, mais aussi des fonctionnaires de police. Les salariés étaient fichés en fonction de différents critères comme leur train de vie ou leurs antécédents judiciaires. Certains prévenus encourent une peine maximale de 10 ans de prison. Terminons ce journal avec cette polémique qui vise Canal+, accusé de censure. La chaîne cryptée a diffusé hier un documentaire dénonçant le sexisme et le harcèlement dont sont régulièrement victimes les journalistes sportives. Un documentaire signé Marie Portolano qui vient de quitter Canal+. Et le problème, Simon Rubin, c'est que la version diffusée a été caviardée. Des passages jugés gênants ont été coupés au montage, ce concernant l'un des chroniqueurs stars de Canal.
Exactement, dans le documentaire, Pierre Ménès est mis face à Isabelle Moreau, journaliste de Canal+, face à face entre un agresseur sexuel et sa victime, puisque plusieurs années auparavant, Pierre Ménès, chroniqueur foot sur Canal+, avait embrassé de force Isabelle Moreau en pleine émission, une séquence diffusée à la télé devant un public, des chroniqueurs et invités hilars, une séquence qui va dès lors suivre et traumatiser la journaliste. Et donc dans l'extrait qui a été coupé, mais que plusieurs journalistes ont pu voir, Isabelle Moreau fait face à un Pierre Ménès au discours qui aurait été tellement accablant pour lui-même que la chaîne aurait décidé de le faire sauter. Alors pour sa part, Canal+ explique qu'il s'agit d'un choix éditorial. Tous les hommes ont été retirés du montage final, qu'il s'agisse de Pierre Ménès ou d'autres journalistes, pour laisser les femmes s'exprimer. Ça, c'est la version officielle. D'autres voix estiment que la direction de Canal a surtout voulu protéger sa vedette. Il faut par ailleurs préciser que Pierre Ménès Ménès est un habitué des agressions, qu'elles soient filmées ou non, puisque d'autres témoignages et images d'attouchements ou baisers forcés refont surface en ce moment. Enfin, ce documentaire pointe un problème systémique qui dépasse largement la seule chaîne Canal+, et qui concerne tous les médias sans aucune exception.
Simon Rubin, notait que la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. Elisabeth Moreno répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. La météo, Anissa Haddadi, la journée demain sera ensoleillée.
Oui, ça fait du bien, on en avait besoin de ce soleil, il est de retour effectivement, Julien. Alors avant que le soleil ne s'impose sur presque tout le pays demain, sachez que la journée va quand même commencer avec pas mal de nuages bas dans les Ardennes, les Hauts-de-France, la Bretagne, le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, le Massif central ou encore le Pays basque. Dans toutes ces régions, nous aurons des brouillards matinaux qui seront parfois assez épais, donc soyez prudents. Dans l'après-midi, ces brouillards se dissipent et le soleil s'impose partout. Sur les frontières du Benelux, nous aurons quelques nuages qui s'accrochent, mais dans l'ensemble, c'est une très belle journée. Dans le sud, autre bonne nouvelle, le Mistral et la Tramontane vont souffler un petit peu demain matin et complètement s'essouffler demain après-midi. Les températures, elles restent froides pour la saison, avec moins 3 degrés à Nevers demain matin, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Nancy et Limoges, 0 degrés à Rouen et Belfort, 3 pour Paris et Lyon et 9 à Perpignan. Dans l'après-midi, c'est stationnaire et toujours en dessous des normales de saison, avec 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Strasbourg, 14 à Nice, Rennes et Paris, 15 degrés pour Toulouse et 18 la maximale à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Autour de cette question, les entreprises respectent-elles les demandes de télétravail? Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30,
Julien Peirce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir mon cher Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine du bon pied dans le sillage de Tesla qui a montré la voie.
Ça se passe bien, plus 0,3% sur le Dow Jones, plus 0,32 à 32 731 points. Et surtout, le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, bondit de 1,23%, 13 377 points. Après la baisse de la semaine passée, les taux sont plus calmes. Et surtout, Tesla, effectivement, grimpe de 2,3%, 670 dollars. Ça donne une capitalisation, une valeur de 643 milliards de dollars pour Tesla. ARK Invest, la société d'investissement, vise un cours carrément de 3000 dollars d'ici 2025 sur Tesla. Oui. Allons-y, peut-être même 4000 dollars si tout va bien. La société d'investissement table sur 10 millions de voitures vendues par an. On est actuellement à 500 000 environ. Et sur le lancement aussi d'une voiture autonome, là ce sera d'ici 5 ans. Donc des projections très, très optimistes et un titre qui en profite en hausse de 2,3% ce soir. Les autres valeurs de technologie aussi montent. Alors c'est plus modeste, mais ça monte quand même sur Amazon, plus 1,2%, sur Facebook, plus 1,2% aussi, Apple, plus 2,8%, 123,39$, Microsoft, plus 2,5%. Le pétrole est plus stable, moins 0,2%, ça ne bouge pas sur le pétrole, 61,25$ le baril. L'euro remonte légèrement, 1,1935 face au dollar.
La bourse de Paris a encore perdu un peu de terrain suite à de nouvelles prises de profit.
Oui, c'est plus terne, moins 0,49%, 5 968 points sur le CAC 40, des prises de bénéfices sur les mêmes valeurs d'ailleurs, comparé à la semaine dernière, ça ne bouge pas vraiment. On a toujours les pétrolières en baisse, CGG moins 5%, Vallourec moins 3,5%, Total moins 1,2%. En fait, ce sont les secteurs qui pâtissent du reconfinement. On a le secteur aérien, ADP, moins 2%, Air France, moins 1,8%. On a aussi les foncières, donc Mercialis, moins 3% avec Klépierre, Gecina, moins 2,5%, Unibail, moins 1,8%. Et puis le secteur automobile, les équipementiers, Valeo, moins 5% avec Plastic Omnium, Renault, moins 1,3% et Stellantis perd 1,1%, 14,68€.
Exception du jour, le titre Atari qui a encore flambé de 18%.
Oui, c'est un petit peu le phénomène du moment. L'éditeur de jeux vidéo Atari grimpe de 18%, 0,76€. Le titre a doublé de valeur depuis le début du mois de mars dans le sillage de sa crypto-monnaie. Le token d'Atari flambe littéralement. Le but est de créer ici un écosystème autour de l'Atari token. Les projets de développement s'accélèrent donc autour d'Atari avec l'hôtellerie, une thématique des jeux qui devrait devrait s'imposer avec la construction d'hôtels dans le monde, des accords de licence aussi qui font saliver le marché. Ça plaît beaucoup à la bourse. Atari monte, s'envole de 18%, 0,76€ ce soir. Les autres places financières, c'est beaucoup plus calme. Le DAX plus 0,2 à Francfort, plus 0,2 à Milan. Amsterdam plus 0,3 et donc le CAC 40 en baisse de 0,49%, 5 968 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jean-Yves Duménil.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que le gouvernement a édicté de nouvelles règles pour le télétravail. Ces règles sont entrées en vigueur ce matin. Logiquement, on doit être 4 jours à la maison, 1 jour sur site quand notre travail le permet. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus respecté depuis ce matin, Jean-Yves Duménil ?
Non, bien sûr que non. D'autant plus que ces règles, il y avait déjà une recommandation de la part du gouvernement de les appliquer et les entreprises qui étaient en capacité de le faire le faisaient. Il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas télétravaillables, entre guillemets. Par exemple, quand vous êtes boulanger, c'est extrêmement compliqué de faire du télétravail.
Alors, prenons la question autrement. On estime qu'il y a un tiers environ des métiers qui sont totalement télétravaillables. Est-ce que sur ces métiers, dans les petites et moyennes entreprises que vous représentez, Jean-Yves Duménil, on repasse à 4 jours de télétravail et une journée sur site ?
Je pense qu'il y a véritablement une prise de conscience aujourd'hui des chefs d'entreprise de la nécessité de tout faire pour enrayer l'épidémie. Et effectivement, le télétravail est une des clés pour éviter la propagation du virus. Maintenant, dans la pratique, les choses sont compliquées à mettre en œuvre. C'est pas simple d'abord dans l'organisation du travail, même si maintenant, depuis une année que ça dure, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé, qui ont pris des habitudes. Mais par contre, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une véritable lassitude du côté des salariés. Eux-mêmes, maintenant, trouvent très pénible de télétravailler. Et bien souvent, c'est l'employeur qui doit batailler pour ne pas que les salariés reviennent au bureau parce qu'eux-mêmes sont, très franchement, en ont assez de cette situation et ont envie d'avoir des liens sociaux, de retrouver des collègues, de retrouver la vie sociale. Et c'est aussi ça, le plaisir de travailler en entreprise.
Ce que vous nous dites, c'est que du coup, c'est quasi impossible d'arriver à ces 4 jours parce qu'effectivement, il y a énormément de remontées de la part des collaborateurs qui disent « Mais nous, on n'en peut plus, on est mal installé à la maison, on a besoin de sortir, on a besoin de voir nos collègues. »
Exactement. Ceux qui le peuvent le font, mais je vous assure que c'est compliqué à mettre en œuvre dans les entreprises. Et puis, il faut aussi prendre en compte les distinctions qui existent entre les différents territoires. Autant dans certaines métropoles, quand il y a une obligation pour les salariés de prendre les transports en commun, on comprend que cette obligation s'applique. Autant quand vous êtes en zone rurale, que les gens viennent de manière individuelle et que des protocoles sanitaires stricts sont respectés dans les entreprises, le risque de contamination, et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, est extrêmement faible. Donc il faut aussi que le ministère du Travail prenne en compte la réalité à la fois des territoires et des entreprises.
Mais on sait que l'un des principaux lieux de contamination reste l'entreprise et notamment les restaurants d'entreprise. Et dans certaines PME que vous représentez, ça peut poser quand même un souci.
Oui, vous avez raison, effectivement, la question de la restauration d'entreprise. Mais je vous rappelle quand même qu'on a attendu pendant plusieurs mois le décret autorisant les salariés à prendre leur repas sur leur lieu de travail, qui était quelque chose d'interdit jusqu'à présent. Donc, il faut aller vers un encouragement, vers une incitation. Mais entendre le ministère du Travail menacé de sanctions et d'augmentation des contrôles, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable aujourd'hui, alors que tout le monde souffre de cette situation. Et franchement, le sujet, c'est ni la carotte ni le bâton, c'est la responsabilité de l'ensemble, à la fois des chefs d'entreprise et des salariés.
Des remontées que vous avez, Jean-Yves Duménil, secrétaire général de la CPME, il y a vraiment beaucoup de contrôles ? Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas nombreux, les contrôleurs potentiels, pour assurer ces contrôles.
Non, vous avez raison. Effectivement, il y en a assez peu. Et encore une fois, c'est tant mieux parce que quand vous êtes dans une situation déjà économique difficile, que vous êtes dans une situation d'organisation du travail qui est complexe, avec une lassitude de vos équipes, voir arriver un inspecteur du travail qui vient présenter une forme de menace parce que vous n'avez pas fait exactement ce que vous deviez faire, c'est très difficile à vivre et très mal vécu. Donc je le répète, la solution et la clé, c'est l'incitation et on n'a pas besoin de multiplier les contrôles. On a bien vu ce que ça donnait ces jours-ci quand on menaçait de contrôle tous azimuts avec les attestations, en prenant une forme de foutoir derrière. Donc surtout, évitons ça, responsabilisant les gens, la clé de la sortie, elle est là. Et puis alors, c'est la vaccination, l'autre sujet naturellement.
Bien sûr, la vaccination qui pourrait être la clé de la reprise. Par ailleurs, autre sujet, on est donc dans le cadre d'un troisième confinement. Environ 90 000 magasins ont dû fermer leurs portes à cause de ce troisième confinement. C'est très vrai pour l'habillement, c'est très vrai pour la restauration, toujours et encore. Est-ce que vous espérez encore réussir à faire ouvrir de nouveaux secteurs ?
Il y a effectivement des aberrations absolument complètes. Par exemple, les magasins de sport sont fermés, alors que dans le même temps, on explique qu'il faut que les gens aillent s'aérer, qu'ils soient en extérieur, donc qu'ils reprennent le sport individuel. Et en même temps, vous ne pouvez pas aller dans un magasin de sport aujourd'hui. Donc, ça n'a aucun sens. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Les coiffeurs, par exemple, sont ouverts, ce qui est une excellente chose. Par contre, tout ce qui est esthétique, beauté, onglerie, etc. est fermé. Donc, oui, c'est pas très cohérent non plus. Donc, oui, on espère pouvoir faire modifier les choses. On pourrait parler des magasins d'ameublement aussi, où le risque de contamination est extrêmement faible, qui sont fermés. Vous pouvez acheter de l'électroménager aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter des meubles. Voilà, il y a des choses à corriger, évidemment.
Bon, on va suivre ça dans les jours à venir. Enfin, toute dernière question, Jean-Yves Duménil. Depuis ce matin, les élections dans les petites entreprises, dans les TPE, les élections syndicales ont débuté. Les syndicats n'y arrivent pas pour ces élections. On va sûrement être sur une abstention totalement record de la part des collaborateurs. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de place pour les syndicats dans ces petites entreprises ?
Bon, écoutez, tout simplement qu'on parle d'entreprises de moins de 11 salariés, où il y a une relation directe entre le chef d'entreprise et 7 salariés. Les gens se parlent, ils se connaissent leur vie personnelle au-delà de leur vie professionnelle. C'est évidemment pas le pays des bousounours, hein. Il y a des problèmes, on s'engueule, on a des conflits, mais on se parle. Et donc, à partir de là, on n'a pas besoin d'intermédiaires, puisqu'on se parle directement chaque jour. Voilà, donc à partir de là, les choses se font de manière très simple et directe.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Duménil, le secrétaire général de la CPME, d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous vous intéresserez au boom des travaux d'intérieur et de la décoration. C'est l'un des effets des confinements. Et ça profite à Mondial Tissu. Son directeur général Bernard Cherki sera demain matin votre invité.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération. Vaccination de masse, pourquoi pas nous, interroge Le Quotidien. En France, chaque dose en son temps, c'est le constat que fait Libé, alors que l'exécutif mise sur une accélération des injections et vise une immunité collective cet été. Médecins et pharmaciens, eux, constatent encore une pénurie faute de livraison suffisante. Alors que les États-Unis ont encore battu un record ce week-end avec plus de 6,5 millions d'injections en 48 heures, la France apparaît comme l'un des plus mauvais élèves en logistique d'urgence, écrit Dov Alphon, qui rappelle qu'à ce jour, seuls 2,4 millions de Français ont été totalement vaccinés. Alors comment immuniser 10 fois plus de monde en 3 mois, s'interroge l'éditorialiste. Le plan de Bercy pour faire face à la dette Covid, c'est l'un des titres à la une des Échos. Même si le « quoi qu'il en coûte » est encore loin de sa ligne d'arrivée, il faut déjà l'anticiper. Voilà pourquoi Bruno Le Maire a dressé pour la première fois ce soir devant les députés une feuille de route pour le rétablissement des comptes publics. Le ministre de l'économie veut isoler la dette Covid, mais exclut de la rembourser par une taxe comme la CRDS, écrivent les Échos. À la place, une part des recettes liées au retour de la croissance serait affectée. Le Figaro titre demain sur l'ultra-violence des jeunes qui se banalisent. Rixes, agressions, règlement de compte. Le journal a eu accès à un rapport de la police décrivant heure par heure la violence des voyous dont certains sont encore des enfants. En voici un extrait. Seine-et-Marne, 5 délinquants de 16 et 17 ans martyrisent un enfant de 12 ans. Quasiment au même moment, dans le Rhône, des policiers essuient des jets de projectiles. Leurs agresseurs ont 11, 12 et 13 ans. Dans l'Essonne, 8 mineurs armés de couteaux sont arrêtés en pleine rixe. Tout cela en quelques heures à peine. Une violence sans limite de chaque instant devenue constitutive de l'identité de ces enfants, comme l'explique au Figaro le pédopsychiatre Maurice Berger. Des violences qui, pour certaines, sont amplifiées par les réseaux sociaux. Eh bien, le Figaro Écho nous apprend que Facebook envisage une version d'Instagram programme pour les enfants, public visé, les moins de 13 ans, qui sont déjà nombreux à mentir sur leur âge au moment de l'inscription. L'idée serait donc de créer une version d'Instagram qui permettrait aux parents de garder le contrôle. Commentaire d'une utilisatrice visiblement inquiète. On ne donne pas aux enfants des outils dangereux avec lesquels ils peuvent jouer quand les adultes eux-mêmes n'ont pas trouvé le moyen de rendre ces outils sûrs. Tout est dit.
C'était les Unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Eh bien, c'est le début de la semaine, donc tout va bien.
Tant mieux, 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et nous on se retrouve tout à l'heure pour votre flash vers 23h.
À tout à l'heure. Suite.